Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 8 février, la veille des Jeux Olympiques de Pyongyang. Et comme on n'a aucun article aujourd'hui qui prononce ce nom-là, voici, c'est fait.
C'est dit.
C'est dit. On peut passer à d'autres choses. Alors mesdames, qu'est-ce que...
J'étais prête à le dire. J'avais une phrase.
T'avais une phrase?
Oui.
Oh mais là, vas-y alors.
Non, ça va, tu l'as fait, c'est bon.
Allez Monique, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui?
Alors, je vous parle de deux choses très différentes. Le premier article, c'est de voir est-il possible maintenant de décupler les facultés intellectuelles et même de booster tous nos sens? Eh bien, la réponse suivra.
On va savoir ça à l'intérieur de cette émission-ci.
Oh
là 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 là!
Et le deuxième sujet, ben c'est un peu plus léger.
Ça n'a pas vraiment rapport.
Non, ça n'a pas vraiment rapport. Le jour de la marmotte,
oui.
Hein, c'était le 2 février.
Oui.
Alors, y a-t-il une base scientifique à cet événement?
Ah, oh, dites-moi oui!
Ah, on verra!
On verra, on tient le suspense. Alors, Marie...
Ah, moi, je vous parle d'un...
J'essaie de suivre ça pour voir.
Oui, on s'en va ailleurs. C'est la semaine des enseignants cette semaine.
Oui.
Alors, je vous parle d'enseignants dans un premier texte, un enseignant particulier que je vous présente. Et dans un deuxième temps, d'étudiants qui jouent à l'école, en fait, qui vont lire à l'école, dans une école particulière.
Oh!
Ouais. OK.
Ça, c'est vraiment intéressant.
Mm-hmm.
De mon côté, je vous lis deux éditoriaux. Un sur de quelle façon les entreprises peuvent investir dans la santé des gens dans l'activité physique. Et mon deuxième éditorial, mon deuxième article, c'est, comment je dirais, l'hymne à la lenteur.
C'est bon pour moi, ça.
Mm-hmm. Je vais le lire plus lentement.
On va chronométrer ça.
Alors là-dessus, cher Mathieu, on est prêt pour commencer. Alors, c'est moi qui commence et je vous lis un éditorial de François Cardinal dans la presse de dimanche le 28 janvier. « Mieux vaut prévenir que souffrir. » Il fut un temps où les entreprises, puis là, quand j'ai lu ça, je dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà participé à ça. » Il fut un temps où les entreprises qui voulaient faire plaisir à leurs employés mettaient à leur disposition un fumoir.
Wesh.
Oui, oui. Moi qui n'ai jamais fumé, si je voulais fumer, je faisais juste rentrer là.
Ah, oui. Juste passer devant.
Oui, c'est ça, j'allais dire, oui. Passer devant. Oui.
Signe des temps, ces mêmes employés réclament plutôt aujourd'hui un gymnase, une douche ou un stationnement de vélo. Mais sachant que ces équipements sont pas mal plus coûteux qu'un local dans lequel s'emboucanent des fumeurs, comment inciter les entreprises à dire oui? Et comment les aider à financer ces installations sportives? Une idée portée par le champion des saines habitudes de vie, Pierre Lavoie, circule actuellement dans les coulisses gouvernementales à Québec, où l'on est en pleine discussion pré-budgétaire. Une idée qui mérite plus d'attention. Utiliser une portion de la taxe santé versée par les entreprises pour éponger le coût des équipements sportifs. Ce qu'une entreprise paierait pour la santé de ses employés, autrement dit, elle pourrait le déduire de sa taxe santé. Voilà une proposition logique qui cadre tout à fait avec l'objectif visé par cette fameuse cotisation obligatoire au fond des services de santé imposés aux entreprises. Cette taxe-là varie de 2,5% à 4,26% selon la masse salariale. Cette taxe santé qui n'a rien à voir avec celle qui vient d'être abolie en 2016 lors du dernier budget, doit en effet servir en partie du moins à financer le régime public de santé du Québec. Donc chaque employeur verse de l'argent pour contribuer à l'amélioration du régime public de santé.
Déjà, c'est déjà comme ça.
Oui, c'est ça. Tant mieux si une partie des fonds sert à la prévention plutôt que de se limiter à la guérison quand il se fait bien tard pour agir. Surtout quand on sait qu'on a beau parler de plus en plus de saines habitudes de vie, très peu a été fait pour vraiment intégrer la prévention aux interventions en santé, déplorait le cardiologue Martin Junot dans les pages de la presse. Il serait donc pertinent et cohérent de prendre une partie des 7 milliards de dollars que touche chaque année l'État grâce à la ponction santé pour l'investir directement dans les lieux de travail. Donc, à la source, là où les Québécois passent le plus clair de leur temps en dehors de la maison. Du temps, on le sait très bien, trop souvent sédentaire. Il y a donc là un immense potentiel très peu exploité pour l'instant, et c'est pourquoi Pierre Lavoie suggère qu'une partie de la taxe dédiée en bonne partie à la santé soit réorientée vers les saines habitudes de vie en prenant la forme d'une salle de yoga, d'un gym ou des services d'un kinésiologue. Quand on sait que les médecins peuvent maintenant prescrire de l'activité physique, on voit la synergie dont pourraient profiter les citoyens, les entreprises et éventuellement l'État, dont les coûts de santé augmentent chaque année. Imaginez, on prévoit que la santé gobera près de 70 % du budget du Québec en 2030. Ça, c'est quasiment le trois quarts du budget qui s'en irait vers les soins de santé. On ne peut tout de même pas rester les bras croisés. En agissant directement sur le milieu de travail, le gouvernement a donc justement une occasion d'intervenir en amont. Quant aux employeurs, ils ont l'occasion d'améliorer la productivité et la rétention des employés, ce qui n'est pas négligeable en cette époque de plein emploi. Ils ont aussi la chance d'améliorer la conciliation travail-famille, car un parent qui peut s'entraîner au travail sur l'heure du midi, par exemple, aura plus de temps avec les enfants au retour à la maison. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que des organisations de tous horizons se rangent derrière cette proposition en grand nombre. Et c'est pour ces bonnes raisons qu'on retrouve parmi les appuis à la fois la FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec, et le Conseil du patronat.
Oh mon Dieu, c'est rare!
Oui, ils sont pas souvent la main dans la main, ces deux-là. C'est une solution gagnant-gagnant-gagnant. Win-win-win, lance Pierre Lavoie. Une solution qui ferait belle figure dans la politique conciliation travail-famille en cours d'élaboration à Québec. Alors, c'était l'éditorial de François Cardinal dans la presse du 28 janvier et ça s'intitulait « Mieux vaut prévenir que souffrir ». De placoter. Alors, Marie, tu vas nous, plus que nous placoter, tu vas nous raconter une histoire vraiment intéressante et que certains d'entre nous, on a peut-être déjà vécu, on l'espère.
Je ne le sais pas. Vous jugerez vous-même.
Chacun dans nos expériences personnelles.
Oui, effectivement. Hein. Mais ça fait référence à des profs qui nous ont touchés ou qui ont compté pour nous. Oui, c'est ça l'idée, parce que c'est la semaine des enseignants. Alors, l'article s'intitule « Le prof qui a triché ». C'est un texte de Mylène Moisan qui a été publié dans Le Soleil le 8 mars. Et là, ne soyez pas étonnés, 2015. Ah. C'est un texte que j'ai déjà lu en onde, mais je me suis dit, en le revoyant apparaître les réseaux sociaux, que c'était toujours pertinent. D'abord, il est toujours actuel, puis cette semaine, je l'ai dit, c'est la semaine des enseignants. Donc, je le relis et je lève mon chapeau à tous les enseignants qui comptent, à ceux et à celles qui changent la vie de leurs élèves.
Qui font des différences.
Oui, voilà. Il a commencé l'année premier de classe. Il l'a terminé cancre. Il est passé à un cheveu d'échouer à son cinquième secondaire. Entre les deux, ses parents se sont séparés. De fait, l'élève a échoué. Il a raté son dernier examen de français. C'est le professeur qui me raconte. Cette journée-là, ses parents étaient devant un juge pour sa garde. Ils ne se disputaient pas pour la voir. Ils se disputaient pour ne pas la voir.
Ah, mon Dieu!
Ils avaient de nouveaux amoureux, venaient de s'acheter un condo. Leur enfant ne cadrait plus dans leur vie. Qu'a fait le professeur? Il a triché. Il a modifié le résultat de l'examen, a ajouté 15 %. J'ai mis une belle note, comme celle qu'il avait eue pendant les trois premières étapes. Avec l'examen du ministère, sur lequel je n'avais aucun contrôle, il a eu un 62 %. 3 points de moins et il devait reprendre son français de 5e secondaire. 3 points de moins et sa vie bifurquait au mieux, capotait au pire. Le jour de l'examen, il était totalement ailleurs. Sur sa copie, je ne reconnaissais même pas sa calligraphie. Je savais que je n'avais pas le droit de falsifier sa note, mais j'ai suivi mon instinct. Je ne pouvais pas accepter ça, que des parents bousaient la vie de leur enfant. C'était un génie. Il avait un potentiel hallucinant. Ses parents s'étaient séparés au printemps. Ses notes avaient périclité dans toutes les matières. L'élève avait pris l'habitude de venir jaser avec son professeur pendant les récréations. Il se confiait à lui, lui racontait qu'il ne se sentait chez lui nulle part. La dernière fois que l'élève est passé le voir, il lui a dit qu'il était sûr d'échouer en français. Je ne lui ai pas dit que j'avais trafiqué son résultat. Pas aussi clairement que ça, mais je lui ai dit que, des fois, la vie nous donne des coups de pouce. Alexandre ne l'a plus revu après la fin des classes. Il n'a jamais su qui, de son père ou de sa mère, avait été obligé de le garder. Il a reçu un courriel quelques années plus tard. Il disait à peu près ça. « Monsieur Poulain, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'étais dans votre classe de français en telle année. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai obtenu ma maîtrise. C'est une des plus belles journées de ma vie. » Post-scriptum, si j'avais coulé mon français, j'aurais lâché l'école. Alexandre Poulain a braillé tout l'après-midi, puis il a fait ce qu'il faisait désormais pour gagner sa vie. Il a écrit une chanson. La chanson s'appelle « L'écrivain ». Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui n'était pas équipé de parents et d'un professeur qui a changé sa vie en lui donnant un crayon magique. Le garçon pense que c'est le crayon qui est magique jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est lui le crayon. Je ne veux pas m'attirer la gloire avec cette histoire-là. J'ai seulement fait ce que mon instinct me dictait de faire. Je ne l'aurais pas fait pour n'importe quel étudiant, mais celui-là avait tellement de potentiel. Il faut, à un moment donné, que l'humain entre en ligne de compte, sinon on devient des robots. Alexandre a pris sa retraite de l'enseignement à 30 ans pour se consacrer totalement à la musique. Il a roulé sa bosse, a été en nomination en 2009 pour la révélation de l'année de la disque. À 37 ans, bon, il avait 37 ans en 2015, on s'en souvient, il en était à son troisième album et il faisait son petit bonhomme de chemin ici et en France, et c'est toujours vrai. Il continue de suivre son instinct. Quand il a changé la note de l'élève, Alexandre était prêt à se faire montrer la porte. « J'avais fait mon bac en enseignement pour avoir un emploi, en attendant de pouvoir vivre de la musique. » Je m'étais dit, au pire, ça m'obligera à mettre les bouchées doubles. J'étais convaincue que je faisais ce qu'il fallait faire. Il avait 25 ans, il sortait de l'école. Son dernier cours traitait justement de l'éthique. On avait eu des mises en situation, des cas presque semblables à celui-là. La classe était divisée en deux. Il y avait une moitié qui disait qu'il fallait changer la note, l'autre pas. Ça ne s'invente pas. Dans une autre classe de 5e secondaire à Laval, Alexandre organisait des petits galas où un seul élève était récompensé, une fois tous les 9 jours. Je félicitais l'élève pour autre chose que les notes. Ça pouvait être n'importe quoi, le sourire par exemple. Je voulais que tout le monde y passe, je trouvais quelque chose pour chacun. Pour certains, c'était plus difficile, mais je trouvais toujours, il y a toujours quelque chose. Il remettait au lauréat un petit Bouddha rouge, acheté au Dollarama. et les élèves l'applaudissaient pendant une minute. Ça a changé complètement la dynamique de ma classe. Et qui sait, peut-être quelques vies au passage.
Mm-hmm.
Alors, c'est une histoire vraie. Mm-hmm. Alexandre Poulain, c'est un compositeur, un chanteur que nous écoutons maintenant.
J'ai grandi pas loin d'ici, dans le troisième arrondissement, où les rêves se font endormis. Une fois debout, on n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui posait le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain, et puis de pelleter des nuages pour que le soleil brille enfin. Mais j'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas de ceux qu'on traitait de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Mais il y avait Monsieur Desilets, un prof fin et disponible, qui m'avait pris sous son aile et croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer. Je coulerais le test du ministère. Lundi, j'enverrai mon CV à l'usine de mon père. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur Desilets m'a tendu un crayon banal roulé dans un velours épais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit: ce crayon-là, il est magique. Prends-le demain pour l'examen. Et c'est les réponses et les répliques. J'suis pas du genre à croire tout ce qu'on me dit, mais mon prof inspirait confiance. Je voulais croire un peu aussi que j'avais peut-être encore une chance. D'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de madrie, non. Le crayon était vivant, et contre toutes mes espérances, il écrivait pratiquement tout seul. Sans blague, ça avait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine, avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. J'aurais dû rendre le crayon, j'étais quand même pas un voleur. Mais pour une fois que je me trouvais bon, puis que l'avenir était en couleur, j'ai mis le stylo dans ma poche, puis je suis parti en courant. La conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenu l'auteur que j'espérais. J'ai même vendu dans le monde entier tous mes bouquins et mes essais, mais avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien accompli. Le crayon vainquait les pages blanches, moi, je n'étais que son outil. Je me suis mis à boire plus qu'il ne faut pour oublier que je n'étais rien, que je roulais dans une Camaro sur laquelle mon père s'usait les mains. En plus, j'avais toujours peur qu'on me vole mon précieux crayon, que me dénonce mon professeur, le sang serait vraiment fini pour de bon. Ils m'ont retrouvé hier soir à une séance de dédicace. Tout autour de ses yeux noirs, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et des excuses comme de raison. J'ai dit: Monsieur Desilets, vous venez chercher votre crayon. Il m'a souri tristement en disant: t'as toujours pas compris. Il est dans ta tête ton grand talent. Le stylo venait de chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant. Je suis si fier de toi. Y'a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins trois fois. Moi je me suis levé d'un coup, j'en croyais juste pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou, la vérité me donnait des ailes. Tellement qu'en arrivant chez moi, j'ai jeté le stylo par la fenêtre. La lumière brillait sur les toits et les mots dansaient dans ma tête. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, non, j'ai écrit sans m'arrêter. Le nombre de feuilles que j'ai noircies, je pourrais même pas les compter. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui, qui trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire de la magie. Car dans le troisième arrondissement, les rêves volent pas très haut, on les laisse traîner sur un banc devant l'usine de Camaro et comme on entend la machinerie crier jusque dans le cours d'école, on comprend vite dès qu'on est petit qu'il y a juste les oiseaux qui s'envolent.
Oui, c'était Alexandre Poulain et sa chanson « L'écrivain ».
Merci beaucoup, Marie. Et il y a des histoires puis des chansons qu'on ne se lasse pas d'entendre et de réentendre. Alors, peut-être que dans quelques temps, tu pourras nous revenir encore avec cette histoire-là, puis on sera encore touchés. Alors, du côté de Monique, on parle d'améliorer nos capacités intellectuelles.
Entre autres. Alors, c'est un article...
Est-ce qu'on va être capable de sortir du studio après?
Mais je pense qu'on n'a pas tout à fait ce qu'il faut pour les rehausser actuellement. Non. Vous allez comprendre dans quelques instants comment cela se fait. Alors, c'est sous la plume d'Elsa Abdoun, un article qui s'intitule « Magnétisme, ses pouvoirs démontrés en laboratoire ». Et c'est pour la revue « Science et vie » de novembre 2017. Donc, je reviens à l'année dernière. Le développement personnel est à la mode, mais on n'avait encore rien vu. Car voici qu'en apposant simplement sur votre tête un casque ou des électrodes délivrant de petites impulsions électromagnétiques, celles-ci stimulent notre cerveau et partant ses incroyables potentialités. La possibilité de booster ses facultés intellectuelles et ses cinq sens, mais aussi ses aptitudes physiques, et même son sens moral. C'est pas rien, hein?
Et même son sens moral.
Les premiers résultats le montrent. Le magnétisme fait des prodiges. Et si les médecins, les sportifs ou les militaires l'ont déjà compris, des appareils grand public arrivent aussi sur le marché, ce qui ne va pas sans se poser des questions, bien sûr. Alors que l'homme soit imparfait, qui peut en douter? Que chacun dans sa vie personnelle soit limité par ses capacités physiques ou intellectuelles, c'est une vérité pénible qu'il faut bien accepter. À chaque instant, malgré nos efforts, nous nous heurtons à un plafond de verre qui est aussi bien le nôtre que celui de notre espèce. Une fatalité, semble-t-il. Une prise de conscience, surtout. Entre coachs numériques, produits pour doper la mémoire ou autres capteurs d'activité, d'innombrables innovations technologiques proposent aujourd'hui d'améliorer les performances individuelles, sauf que nous n'avions encore rien vu. Car en matière de développement personnel, un pas de géant vient peut-être d'être franchi. Voici qu'une nouvelle technique permet non seulement de libérer toutes les potentialités que nous avons en nous, mais d'améliorer à volonté la moindre facette de notre être jusqu'à notre personnalité même. Son nom, la stimulation transcrânienne. Un nom barbare pour une vérité très simple. L'encéphale possède la clé de nombre de nos facultés intellectuelles, physiques et morales. Et si, en faisant tourner ces clés, on faisait sauter les verrous? Et si on débloquait notre potentiel? C'est là l'incroyable promesse de la stimulation transcrânienne en envoyant dans le cerveau pendant quelques minutes et à des endroits très précis. Alors, chaque endroit a des résultats différents. Mm-hmm. Je ne vous les décrirai pas tous ce matin, mais c'est vraiment impressionnant. Alors, pendant quelques minutes, donc à des endroits précis, un champ magnétique ou un courant électrique, il serait possible de modifier l'activité des neurones et par là même, les aptitudes qu'ils contrôlent et les comportements qu'ils induisent. Non seulement le procédé semble pouvoir être durable, mais il est simple, indolore, puisqu'il suffit de poser sur le crâne quelques électrodes ou un casque délivrant un champ magnétique. Avec une telle promesse, faut-il s'en étonner, la technique est en passe de devenir un véritable phénomène de société. L'appareillage nécessaire à la stimulation électrique se résume à un générateur de courant relié à deux électrodes et en quelques années, une dizaine de produits tels que Halo Sport ou Focus sont apparus, promettant contre quelques centaines d'euros ou de dollars d'améliorer la concentration et la mémoire des étudiants, de potentialiser les répétitions des musiciens et les entraînements des sportifs, et d'augmenter les scores des amateurs de jeux vidéo. D'après une étude récente, plusieurs milliers de personnes se seraient déjà laissées tenter.
On peut comprendre.
Plus fascinant encore, à ce marché amateur, s'ajoute l'intérêt évident, on le devine, des médecins pour soigner des maladies neurologiques ou psychiatriques. Par ailleurs, des équipes professionnelles étudient la technique pour améliorer les performances de leurs sportifs. N'est-ce pas tout à fait approprié dans le cadre des activités de Pyeongchang? Par ailleurs, des équipes professionnelles, et l'armée américaine même mènent des tests dans le but de former des super agents capables, par exemple, de gérer plusieurs tâches cognitives complexes à la fois. Il faut dire que, jusqu'à présent, la seule voie d'accès physique à des cerveaux en bonne santé passait par la chimie. Une voie limitée à quelques molécules, plus ou moins sommaires, excitants, calmants, améliorant l'humeur ou troublant les perceptions, souvent au prix d'effets secondaires. La stimulation électrique est plus récente, si des expériences ont été réalisées dès les années 1960 sur des animaux, il aura fallu attendre les années 2000 et l'accumulation de démonstrations sur l'humain pour qu'elles soient prises au sérieux. Le courant ici est de l'ordre de milliampères, soit plusieurs centaines de fois moins intense que celui employé par les électrochocs.
Okay.
Force est de constater que la stimulation transcrânienne est désormais un champ de recherche fondamental, comme en témoigne l'avalanche des travaux qui lui ont été consacrés ces 10 dernières années. Des centaines de chercheurs à travers le monde accumulent donc des résultats bluffants et suggèrent la capacité de ces techniques à modifier presque toutes les aptitudes humaines, sensorielles, physiques, cognitives et même morales. Alors, ça nous questionne sur, je pense, le plan éthique aussi qui découle de tout ça.
Là-dedans, c'est comme on peut changer beaucoup de choses, mais il y a le côté médical qui m'appelle particulièrement.
Oui, mais on en a déjà parlé dans d'autres articles.
Oui.
Mais c'était donc un article d'Elsa Abdoun pour la revue Science et Vie de novembre 2017.
Excellent. Ben gros merci, Monique. Alors, on vous attend dans quelques minutes. On va parler de lecture, on va parler de marmottes, et puis on va parler... De quoi je parle, donc? Ah oui, de lenteur.
Petit voyou de favela, enfant des rues de là-bas, moi j'aime tes concerts sur boîte de conserve. Mañana c'est carnaval, mañana c'est carnaval. Petite fille de favela, fille de joie, tu n'as qu'un seul soulier pour aller à la fête. Mañana, c'est carnaval. Mañana, c'est carnaval. L'autocar dans ce paradis de bazar, et j'ai perdu $2-3 à une course de cafard.
Viva gringo, viva el gringo.
C'est moi le gringo. Les enfants ont bien rigolé, et moi aussi j'ai rigolé. Vous avez faim, on va manger. Le gringo, c'est fait pour payer.
Viva gringo.
Voyou de favela, on a plongé tour des trois. Dans la grande ville folle qui peignait ses guignols.
Mañana.
Très bien déguisé, on a couru le grand marché. Couronne d'or, cape dorée, ce qu'il volait, je le payais.
Viva Ringo!
Viva Ringo!
Et puis ils m'ont perdu dans la nuit pour remonter dans leur pays et faire avec leurs beaux habits un royaume dans leur taudis.
Viva Ringo!
De favela, j'aurai des larmes de joie. Demain, au défilé, vous serez roi et reine.
Mañana, c'est carnaval.
C'est carnaval.
Mañana, c'est carnaval. Mañana, c'est carnaval. Mañana, c'est carnaval. Mañana, c'est carnaval. Mañana, c'est carnaval. Mañana, c'est
Gilbert Bécaud et sa chanson « Mañana, c'est carnaval », puisque c'est carnaval partout dans le monde, semble-t-il.
Oui, oui, parce que bientôt, ça va être carême dans plusieurs endroits du monde. Alors, on fête ça avant. D'ailleurs, ça donne une couleur à notre deuxième partie. La première partie a été très, très sérieuse, même touchante à plusieurs égards. Et cette fois-ci, on va être un peu plus festif. Et ça commence avec Marie.
Oui, on peut se réjouir. C'est un article qui nous permet de nous réjouir. Le titre « Des Ucamiens à l'école Champlain ». Je vous appelle le mot « Ucamien », U majuscule, Q-A-M, comme UQAM, mm-hmm. Université du Québec à Montréal, oui, oui. Ucamien. C'est un texte de Claude Gauvreau, qui n'est pas l'écrivain, publié dans la revue Actualité UQAM le 22 janvier 2018. Une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants à la maîtrise et au doctorat en études littéraires font chaque semaine la lecture aux élèves de maternelle, de première et de deuxième année de l'École Champlain, qui est une école de la CSDM, la Commission scolaire de Montréal. La scène se déroule dans une classe de deuxième année de l'École primaire Champlain, à l'ombre du pont Jacques-Cartier, dans le quartier centre-sud de Montréal. Ce jour-là, Félix Pigeon, étudiant à la maîtrise en études littéraires, est venu faire la lecture à un groupe d'élèves, comme c'est le cas chaque semaine depuis la rentrée scolaire. L'album qu'il s'apprête à lire raconte les aventures de Victor, un jeune garçon venu travailler dans une ferme au Québec pour fuir la guerre en Europe dans les années 1940. « À quelle époque se déroule l'histoire, pensez-vous? » demande Félix en montrant les images de l'album. « Ça se passe dans le vieux temps, à cause des vêtements des personnages. » répond un enfant. « Avez-vous une idée de quelle guerre il s'agit ?» interroge l'étudiant. « C'est la guerre mondiale !» lance un élève. « C'est quoi la guerre mondiale ?» demande un autre. Félix poursuit la lecture en l'interrompant parfois pour questionner les enfants, histoire de vérifier leur attention et de stimuler leur imagination. Félix Pigeon fait partie de la vingtaine d'étudiantes et d'étudiants à la maîtrise et au doctorat en études littéraires qui, sous la supervision de la professeure Geneviève Lafrance, font la lecture aux élèves du préscolaire et du premier cycle de l'École Champlain. « Les enfants sont heureux de nous revoir chaque semaine », dit Geneviève Lafrance. Quant aux étudiants bénévoles, plusieurs m'ont dit que leur passage à l'école était leur plus beau moment de la semaine. Notre groupe, baptisé Littéraire à l'école, a mis sur pied une petite bibliothèque de livres jeunesse au département. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Adopter une école, lancé en 2015, qui vise à rapprocher des écoles de la Commission scolaire de Montréal, des universités et des cégeps, afin de favoriser la persévérance et la réussite scolaire. L'UQAM et sa faculté des sciences de l'éducation, en collaboration avec d'autres facultés, ont convenu avec la CSDM et la direction de l'école Champlain d'adopter cette école située dans un quartier défavorisé. Le projet consiste à soutenir les efforts de l'école pour développer les compétences des enfants en lecture, en écriture et en mathématiques, mais aussi leurs habiletés sociales. Au Québec, plus d'un élève sur cinq issu d'un milieu défavorisé quitte le secondaire avant d'avoir obtenu un diplôme ou une qualification. Dès l'âge de 7 ans, les difficultés en lecture et les comportements problématiques, inattention, hyperactivité, agressivité, sont les plus importants indicateurs d'échec et de décrochage scolaire. L'École Champlain est l'un des établissements de la CSDM qui affiche l'indice de défavorisation le plus élevé sur une échelle de 10. Selon sa directrice, Françoise-Anne Thomas, les séances de lecture animées par les étudiants de l'UQAM contribuent à la réussite du projet éducatif de l'école, axé sur l'apprentissage du français par l'acquisition d'habiletés en lecture et en écriture. Cette année, à la rentrée scolaire, l'enseignante Pascale Drainville a accueilli des enfants qui ne parlaient à l'époque, au moment de la rentrée scolaire, ni le français ni l'anglais. Certains, parmi ceux qui n'ont pas connu la maternelle, n'ont jamais fait de coloriage, de découpage ou de collage. Il y en a d'autres à qui on n'a jamais lu de livre. Je fais la lecture au minimum une fois par jour avec mon groupe de 16 élèves. Les enfants sont toutefois plus concentrés et s'expriment davantage quand ils sont réunis en petits groupes de 3 ou 4, comme c'est le cas dans les séances de lecture animées par les étudiants de l'UQAM. Depuis que ces séances ont débuté, les élèves sont plus enthousiastes à l'idée d'aller à la bibliothèque, empruntent davantage de livres et les gardent plus longtemps. La professeure du département d'études littéraires, Geneviève Lafrance, fait elle aussi la lecture aux élèves de l'École Champlain. Jusqu'à maintenant, c'est quelques 80 élèves qui ont participé aux séances de lecture. Ce qui m'a le plus étonnée, dit Mme Laberge, Lafrance, ce qui l'a donc le plus étonné, c'est la rapidité avec laquelle les enfants nous ont adoptés. Dès la deuxième rencontre, ils couraient vers nous pour nous faire des câlins. Les histoires que nous leur lisons n'ont pas nécessairement un contenu éducatif, mais ce sont des récits drôles et prenants qui font appel à l'imaginaire. Pour animer les lectures, les étudiants ont reçu l'aide d'Hélène Turgeon, professeure de didactique et auteur jeunesse, qui leur a offert une formation sur la lecture interactive. Je leur ai expliqué sur quels éléments dans le texte et dans les images ils pouvaient attirer l'attention des élèves. En échangeant avec les enfants, en leur posant des questions sur les personnages, sur leurs agissements, sur ce qu'ils feraient s'ils étaient à leur place, on fait appel à leur connaissance du monde. Les séances de lecture avec les UQAMiens se poursuivront jusqu'à la mi-avril et culmineront avec une visite des élèves et des enseignants de l'école à l'UQAM. Un auteur jeunesse fera la lecture aux enfants à l'agora du pavillon Judith Jasmin et chacun recevra un livre. Le partenariat entre l'UQAM et l'École Champlain repose sur une adoption mutuelle, dit la directrice de l'école. Notre école est une sorte de laboratoire. Les professeurs et les étudiants de différentes facultés apprennent au contact des enfants, des enseignants et des autres intervenants de notre école. Ce partenariat est un work in progress. Merci. Nous voulons le consolider et l'enrichir pour qu'il se poursuive le plus longtemps possible. Voilà pour le texte publié dans la revue Actualité UQAM.
Merci beaucoup, Marie. Et même au Canal M, il y a des expériences de lecture
qui s'en viennent.
Ben, qui ont eu lieu. Il y en a une qui a eu lieu par une certaine Marie Lalande dans le temps des fêtes. Oui. Et j'ai entendu dire qu'il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent, du même acabit.
On vous en reparle.
Alors, soyez à l'écoute. Oui, on va sûrement en faire note. Alors, pour ma part, je vous lis encore une page du carnet d'endorphine qui devient une de mes sections chéries dans la presse. C'est le petit guide de survie à l'usage des coureurs lents. Et là, chers auditeurs, vous pouvez traduire « coureur » par « marcheur », par n'importe quoi, en fait. Ce qu'on va regarder du côté des coureurs lents, ça s'adapte à toutes sortes de choses, vous allez voir. Ça a été écrit par Geneviève Lefebvre dans la presse du 31 janvier. « Je ne voudrais offenser personne, mais les gens qui n'arrivent pas à courir leur marathon en bas de 4 heures n'ont pas leur place dans les courses. »
Aïe!
J'ai attrapé cette petite phrase, un modèle de condescendance arrogante, véritable bijou d'orfèvrerie passive-agressive, au début d'un fil de discussion dans un groupe de course sur Facebook. Ces fameux groupes où on est censé s'entraider et s'encourager, mais où, le temps d'un missile nord-coréen annihilateur de motivation, on vient de renvoyer à la honte et à l'humiliation tous ceux qui osent courir lentement. Bravo, champion! Ce genre d'attitude, c'est précisément ce qui ralentit le groupe. Quittons tout de suite ce triste site et passons aux choses sérieuses. Vous, mes bambis d'amour. Je regarde Mathieu qui rit présentement. Oui, vous qui êtes considérés comme des coureurs lents et qui endurez avec beaucoup de grâce et d'élégance ce genre de commentaires visant à départager les élus, eux, de la plèbe, le reste de la gang. On va régler un truc essentiel. Vous avez votre place. Partout. Sur la route, les tapis roulants des gyms, les trottoirs, les clubs de course, les pistes d'athlétisme, les sentiers, les courses officielles, partout. Le simple fait de chausser vos running, de bouger cette merveille biologique qu'on appelle le corps, de vous confronter à la zone d'inconfort, avec constance et bravoure, fait de vous des bambis bioniques.
Ah, ils ont sûrement eu des électrodes.
Même pas.
Non, c'est les autres. En fait.
Demandez à Martin Junot, cardiologue, ça fait deux fois que je parle de lui aujourd'hui, hein? Cardiologue et auteur du livre « Un cœur pour la vie », ce qu'il pense des coureurs lents. Je ne voudrais pas présumer de sa réponse, mais je miserais un gros 10$ sur un pouce levé en signe d'encouragement à persister. Parce qu'il est là le point crucial. Dans la persistance.
Ne lâchez pas.
La constance, le mode de vie. Un peu de corps en action tous les jours jusqu'à ce que ça fasse partie de la routine, comme de se brosser les dents ou d'envoyer de larges sourires aux tatas condescendants. Courir lentement ne signifie en rien qu'on néglige l'entraînement, qu'on est mal préparé ou qu'on ne veut pas assez fort. Ça signifie que chacun court à son rythme, avec la vie qui est la sienne, dans le corps et les circonstances qui sont les siens. Vous n'avez pas besoin de courir plus vite pour avoir votre place au grand soleil des coureurs, ni d'avoir la physionomie d'un coureur kényan pour être un vrai, ni même de performer pour obtenir une médaille de légitimité. Vous le faites et ce n'est à personne d'autre de décider si c'est assez ou si vous avez envie de pousser la machine. Oui, mais c'est blessant de se faire diminuer, me dites-vous. Ça me décourage qu'on me fasse sentir comme le dernier ou la dernière choisie dans l'équipe de basket du deuxième secondaire. Maudit secondaire! Un jour, il faudra que quelqu'un se penche sur les rescapés des cours d'éducation physique où seule la performance est valorisée. En attendant, pas question de laisser des grands dadais souffrant d'insécurité. Oui, oui, si M. Tata était bien dans sa peau, s'il profitait de ses endorphines à fond, il se ficherait éperdument de la vitesse des autres. Minez votre morale et encore moins votre belle ténacité à l'entraînement. Je vous laisse sur cette phrase mémorable du grand Steve Préfontaine, coureur aussi étincelant que doué pour les phrases qui trucident. La plupart des gens participent à une course pour voir qui est le plus rapide. Moi, je participe à une course pour voir qui a le plus de cœur au ventre.
Oh, bon.
C'était une autre page fabuleuse du carnet d'endorphine, petit guide de survie à l'usage des coureurs lents. Et là, vous changez coureur pour toute l'autre activité et ça marche quand même. Alors, Monique, ça y est, c'est le temps.
C'est le temps de la marmotte.
Oui, oui, on, depuis.
Mais en fait, marmotte, c'est, oui. ça, je pense que c'est juste à point après la tempête que l'on a eue hier. On espère quoi, là, dans les prochains.
Le printemps.
Le printemps, voilà. Alors, c'est un article d'Ève Christian, météorologue bien connue, pour Info Radio-Canada du 2 février dernier. Et ça s'intitule Le jour de la marmotte, science ou folklore? Alors, le 2 février, comme je disais, est le jour de la marmotte. Donc, d'où vient cette appellation et que valent les marmottes pour prévoir la météo? Je pense que vous avez déjà la réponse, mais...
On s'en doute un peu.
Oui, on s'en doute un peu.
On espère que ça ne soit pas ça.
Mais bon, vous allez voir. Le réveil matin doit être bien réglé, car c'est toujours le 2 février que les marmottes vedettes, parce qu'il y a des vedettes, hein, émergent de leur sommeil et se pointent le nez dehors à la recherche de leur ombre. Il faut dire que cette date tombe presque exactement entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Ah, donc, il y a quand même des repères qui sont fixes et qui ne sont pas des impressions.
Donc, il y a de la science à la
base. Un petit peu. Selon la tradition, qui relève beaucoup plus du folklore que de la science, notre avenir météorologique dépend de leur comportement à la sortie de leur tanière. Si elles ne voient pas leur ombre, elles restent à l'extérieur, car elles croient que le pire de l'hiver est passé et que le temps chaud approche. Si elles voient leur ombre, elles sont tellement effrayées qu'elles retournent rapidement se réfugier dans leur trou pour dormir encore six semaines. Autrefois, le 2 février, c'était le jour de la Chandeleur. Cette fête chrétienne, qui arrive 40 jours après Noël, soulignait la présentation au temple de l'enfant Jésus par sa mère Marie. Une procession aux chandelles était souvent organisée pour célébrer cette journée.
Et on mange des crêpes.
Et on mangeait des crêpes, c'est vrai. Selon une tradition libre, la légende de la Chandeleur statuait que si la Chandeleur est belle et dégagée, l'hiver aura un second souffle. Mais si la Chandeleur amène nuages et pluie, l'hiver s'en va et ne revient plus.
Donc le Christ était la première marmotte?
Si tu veux. Au Moyen Âge, en Europe, une légende indiquait que les hérissons prédisaient l'arrivée du printemps suivant le temps qu'il faisait ce jour-là. Mais selon les régions ou les pays, l'animal prévisionniste était soit un ours, un loup ou une loutre. Grâce aux colons européens qui ont traversé l'Atlantique pour s'installer en Pennsylvanie il y a plus de 200 ans, cette tradition s'est amenée sur le continent nord-américain.
Okay.
En l'absence de hérisson, c'est à la marmotte que l'on a confié le soin de prédire l'arrivée du printemps. Pour les colons, il était important de savoir si l'hiver perdurerait parce que vers la fin de la saison froide, leurs réserves diminuaient et ils attendaient anxieusement l'arrivée du printemps pour semer à nouveau et récolter. Et pour connaître ce moment, ils observaient la fin de l'hibernation d'un animal. Bon, on pourrait douter de la pertinence, puisque le temps est différent partout au monde. Hein? Mais bon, l'expression de cette tradition se basant sur l'ombre de la marmotte est relativement logique. Pensons-y. En hiver, un ciel dégagé signifie souvent un anticyclone arctique, qu'un anticyclone arctique recouvre la région. Donc, l'air froid et sec laisse présager que l'hiver perdurera. Le temps nuageux est en lien avec une dépression qui, souvent, apporte de l'air plus doux et humide, laissant croire que l'hiver tire à sa fin. Évidemment, il n'y a aucun rapport entre le temps qu'il fait le 2 février et celui qu'il fera dans les semaines à venir. Phil, la plus célèbre de toutes les marmottes,
la championne des marmottes,
habite dans une ville de la Pennsylvanie, Puxutawane, à 135 km au nord de Plattsburgh, et depuis 1887. Cette journée est l'occasion pour des festivités monstres dans la région. cet immortel Phil. Il paraît que la marmotte est née au 19e siècle et qu'elle tiendrait sa longévité d'un élixir magique.
On voudrait
de l'élixir, en fait. Laissons faire. Okay. Elle est bichonnée et nourrie toute l'année par un groupe de gentlemen en habit noir et haute forme qui sont chargés de perpétuer cette tradition. D'après eux, toutes les marmottes sont des imposteurs. Alors, certaines villes d'Amérique du Nord se sont servies de la popularité de cette légende pour faire un événement médiatique qui attire des gens dans la région à une période de l'année plutôt calme pour le tourisme. C'est entre autres le cas pour Val d'Espoir, un très beau nom, en Gaspésie, où depuis 2009, on attend impatiemment les prédictions de Fred. En Ontario, dans la baie Georgienne, on trouve Willie. Alors, cette marmotte est albinos et tiendrait un don de clairvoyance qui fait qu'elle est née exactement sur le 45e parallèle, à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. Les ancêtres de Willie sont probablement les initiateurs de cette tradition au Canada qui a commencé en 1856. Donc, on a un décalage horaire par rapport à la Pennsylvanie. Depuis 1987, en Nouvelle-Écosse, c'est Sam, le siffleux de la communauté Mi'kmaq, qui livre son prognostic.
Mais c'est un siffleux.
C'est un siffleux. En raison de son emplacement géographique, c'est la première marmotte de l'Amérique du Nord à livrer sa prévision. Alors, les promoteurs des événements de prévision du rongeur, elle dit, entre parenthèses, « Ève, je préférais utiliser le mot prédiction que prévision. » Et juste entre 75 et 90% du temps, ce que contredisent des études menées par des organisations plus scientifiques sur 30 à 40 ans à l'étude pour 13 villes canadiennes. Alors, on conclut que ça s'est avéré juste à 37% des cas.
Quand même.
Oui, quand même.
Quand même.
Alors, encore cette année, il n'y a pas de consensus. Phil, la marmotte officielle, celle qui a toujours l'heure juste, comme l'affirment ceux qui la bichonnent, est sortie de sa tanière et elle a vu son ombre. La marmotte de Wyerton, Willie, elle est d'accord avec Phil. Par contre, la marmotte gaspésienne, Fred, et la néo-écossaise, Sam, s'entendent pour dire que le printemps sera hâtif, étant donné qu'elles n'ont pas vu leur ombre. Alors, quand sera-t-il au juste?
Donc, c'est un match nul.
C'est un match nul. Oui. Le froid perdurera-t-il encore? L'avenir le dira. Ni les marmottes, ni les météorologues ne pourront le dire. Mais le printemps arrivera officiellement le 20 mars à 12h15.
Okay. Bon,
heure avancée de l'Est.
Là-dessus, on s'entend.
C'était Ève Christan qui nous racontait tout ça dans Info Radio-Canada du 2 avril.
Alors, de mon côté, j'ai une petite annonce qui vient de Para Badminton Québec. Je ne savais pas, mais j'ai appris que le badminton est un sport olympique depuis 1992. Ça, je savais. Mais le badminton fera son entrée aux Jeux paralympiques en 2020 à Tokyo, ce qui est plus facile à dire, pour les Jeux olympiques d'été. Alors, le badminton, c'est un sport pratiqué au Québec, un sport passionnant à tous âges. Un sport très accessible, très complet, mais qui est aussi qui est accessible maintenant pour les gens qui souffrent de différentes limites. Il y a des joueurs assis en fauteuil roulant, des joueurs debout, dont les membres debout, membres inférieurs, joueurs debout, membres supérieurs, joueurs assis en fauteuil roulant, joueurs debout, membres inférieurs et joueurs de petite taille. Vous pouvez faire appel à Parabadminton Québec pour suivre des cours et peut-être... À 2020, c'est dans 2 ans. Qui sait? On pourrait peut-être parler de vous à ce moment-là.
Alors, je vous parle de l'Asie du Sud, qui est une région du monde peuplée par 1/5 de l'humanité qui pourrait bien ne plus être habitable d'ici 2100, le 22e siècle, en fait. Au rythme actuel du réchauffement climatique, les vagues de chaleur, couplées à la hausse de l'humidité, engendreront des conditions insupportables pour l'homme avec des températures médianes de chaleur humide atteignant les 35 degrés Celsius.
Aïe, 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 aïe. Bon, ben, coudonc, quand il fait froid, c'est pas si pire.
C'est ça.
Marie,
quelques mots d'enfant sur le thème de la Saint-Valentin et de l'amour, parce que c'est mercredi prochain. Alors, le baiser, selon Léonie, 9 ans, c'est le médicament des parents pour qu'on aille mieux tout de suite.
Oh, on en veut, on en veut!
Le cœur, selon Smyrna, 5 ans, c'est l'organe qui sécrète l'amour, donc obligatoire si on veut tomber amoureux. Et le mariage, selon Mathis, 11 ans, c'est quand deux grandes personnes se mettent ensemble pour supporter des choses qu'elles ne veulent plus supporter toutes seules, comme descendre toujours la poubelle.
Wow!
Un gros merci, Marie, pour nous avoir mis le mariage dans un autre contexte. Alors, je remercie Mathieu Tessier à la mise en onde et à l'inspiration. Marie et Monique à la lecture. C'est Yvan Deslauriers qui vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain.